Très bien. Eh bien, tout d'abord, on remercie le professeur Kerneis et moi-même, nos modérateurs qui vont être gentils et bien nous modérer. Et puis, on remercie bien évidemment les organisateurs de ce congrès, en particulier Michel, pour nous avoir invités, pour parler de quelque chose qui est un petit peu... je dirais pas à l'opposé de ce qu'on vient d'entendre, mais un petit peu différent. Donc, je vais présenter très succinctement le groupe hospitalier Pitié-Salpêtrière, même si tout le monde le connaît à peu près bien. Et ce groupe, en fait, c'est un groupe qui a deux sites. Un site plutôt à vocation gériatrique, qui est le site Charlefoy. Et puis le gros site, c'est le plus grand groupe hospitalier de l'Île-de-France, c'est le site Pitié-Salpêtrière. Et là, je ne peux pas vous présenter une carte qui regroupe une région où il y a une heure de route, mais je peux vous présenter une carte d'un hôpital qui fait 33 hectares, c'est-à-dire un hôpital de taille gigantesque, avec une organisation pavillonnaire et un certain nombre, voire un nombre certain, de lits, de réanimation, d'unités de soins intensifs, etc., qui expliquent finalement le volume d'examens qui sont pratiqués dans cet hôpital. Et à l'heure actuelle, l'ensemble de la biologie courante, si je peux dire, y compris les troponines, bien sûr, et tous les marqueurs cardiaques, sont effectués pour l'ensemble du groupe hospitalier, pour les services qui n'ont pas de biologie délocalisée, sur un laboratoire central et un seul. Et comme l'hôpital est vaste, qu'il y a des besoins d'urgence extrêmement importants, on a développé un réseau de machines de biologie délocalisée au sein de ce groupe. Et évidemment, au départ, on a commencé en 2003 à développer quelques machines à gaz du sang dans des services extrêmement demandeurs parce que malgré l'existence d'un laboratoire de biologie des urgences individualisé qui était situé dans un bâtiment qui est le bâtiment Gaston Cordier, qui est le bâtiment des urgences finalement et des réanimations, eh bien, ça n'était pas suffisant en termes de rendu, de rapidité de rendu de résultats, faire ces examens en centrale. Et donc, on a commencé à implanter des machines de biologie délocalisée, essentiellement des machines à gaz du sang. Et puis, plus récemment, il y a quelques années maintenant, ça fait 7 ans, il y a eu transfert de ce laboratoire de biologie des urgences qui était individualisé sur une plateforme à haut débit, si on peut dire, et donc un éloignement la biologie centrale par rapport à un certain nombre de services où se trouvent des lits de réanimation, où se trouvent des lits de soins intensifs et donc des besoins d'obtenir des résultats d'examen de biologie rapidement. Et donc ça nous a conduit à implanter dans un certain nombre de services des examens de biologie, des appareils de biologie délocalisés. Et voici à l'heure actuelle l'état du déploiement des dispositifs de BMD sur le groupe Pitié-Salpêtrière. Charlefoy est anecdotique puisqu'il y a en tout et pour tout un appareil à gaz du sang. Mais vous voyez qu'on a quand même 17 machines à gaz du sang, plusieurs machines d'immunoanalyse, des machines d'hémostase, des HemoQ, on ne sait même plus combien il y en a sur le groupe, tellement il y en a. Et puis une petite machine intéressante qui fait le fibrinogène et qui a une application tout à fait particulière. Nous, on a instauré, mais ça c'est dans tous les hôpitaux, on a instauré un mode de gestion d'autorisation d'implantation des examens de biologie délocalisés sur le groupe Pitié-Salpêtrière avec un comité consultatif et puis un groupe d'encadrement. Le comité consultatif, c'est celui qui plutôt permet l'implantation, autorise l'implantation, et le groupe d'encadrement est celui qui permet de suivre l'évolution des machines sur le groupe. Et vous voyez qu'il y a un certain nombre de, aussi bien biologistes que cliniciens, qui sont impliqués dans cette, comment dire, dans le fonctionnement hiérarchique du déploiement et du suivi des examens de biologie délocalisée, avec un processus d'autorisation qui est bien, à l'heure actuelle, bien codifié. Alors, comme vous le voyez à gauche, c'est toutes les étapes qui permettent l'implantation dans notre hôpital d'une machine de biologie délocalisée. Et à droite, c'est le refus d'implantation. Je vous rassure, la flèche de droite est extrêmement rarement utilisée parce que nos cliniciens sont des gens très intelligents et quand ils demandent des machines, ils ont une justification généralement qui est assez irréfutable, soit en termes de gain de temps, bien sûr, soit en termes de comment dire, d'effectivité de la prise en charge des patients. Alors, on va parvenir sur la norme en ce qui concerne les EBMD, mais nous avons mis en place un certain nombre d'étapes pour la formation, la gestion et le suivi des compétences des utilisateurs de BMD sur le groupe Pitié-Salpêtrière. Alors la difficulté, hein, c'est le nombre de personnes à former sur un groupe où il y a quasiment 8000 personnels soignants et on a formé globalement un millier de personnes à l'utilisation des EBMD, avec des problèmes qui sont liés à des horaires différents. Il faut former des gens la nuit, des problèmes de turnover du personnel qui est de plus en plus important, avec des intérimaires qu'il faut former à l'arraché, et ainsi de suite, ce qui fait que on a de plus en plus de difficultés. Mais heureusement, on a une équipe de techniciens et de biologistes qui sont, eux, assez stables et qui assurent de façon assez remarquable l'ensemble de ces tâches. Avec un processus d'habilitation et de maintien des compétences qu'on a établi, bon, qui vaut ce qui vaut. On a mis une fréquence de réhabilitation tous les 3 ans. On a mis une réhabilitation obligatoire si il n'y a pas d'utilisation du dispositif pendant 6 mois ou s'il y a 5 passages en erreur technique. C'est un choix que nous avons fait. On peut faire des choix plus drastiques, mais compte tenu du nombre de personnes qu'on a formées et habilitées, ça paraissait pas possible d'imaginer d'avoir une habilitation à refaire tous les 6 mois. Donc, comme partout, hein, bien sûr, et comme ça vient d'être dit par les orateurs précédents, les EBMD, c'est un partage. C'est un partage entre le laboratoire et l'équipe clinique qui les utilise. Et dans ce partage, il y a un certain nombre de tâches qui reviennent à l'un et à l'autre et qui sont complémentaires. Ça ne peut pas marcher s'il n'y a pas une bonne entente entre ces deux équipes, s'il n'y a pas, par exemple, une réflexion commune sur le choix de l'automate, des paramètres en fonction des besoins du service. Bien sûr, le LBM se charge de la validation de méthode, de la formation et de l'habilitation du personnel soignant. Dans certains cas, de la gestion des contrôles de qualité. Dans d'autres cas, on verra que c'est pas le cas. Et justement, dans l'unité de soins du professeur Kerneis, c'est différent. Hein, on leur a donné un peu plus d'autonomie ou un peu plus de travail, c'est selon. Bien sûr, c'est nous qui gérons les pannes et c'est nous qui validons biologiquement les résultats, puisque ces machines sont connectées sur un concentrateur et nous arrivent dans notre LIS. Les utilisateurs, ben, ce qu'on leur demande en premier lieu, tout de même, c'est d'être habilités, de savoir se servir des machines. de respecter les conditions préanalytiques, bien sûr, hein, de ne pas prélever un tube pour troponine sur un tube citraté, par exemple, c'est eux qui interprètent en premier les résultats. Hein, évidemment, c'est eux qui les ont en premier. Ils doivent se savoir se servir de l'automate de façon correcte. Alors, selon les services, c'est nous qui nous chargeons du remplacement des réactifs ou, dans d'autres cas, et ça va être le cas pour LucasArts, ce sont le personnel du service clinique qui va se charger du remplacement des consommables et en particulier aussi de la gestion des contrôles de qualité pour eux. Alors maintenant, je vais laisser la parole à mon collègue Mathieu qui va vous présenter justement son unité de soins qui est tout à fait particulière. Merci Mathieu.
Merci Michel, bonjour à tous. Donc, je suis Mathieu Carnet, je suis un cardiologue interventionnel à La Pitié et j'ai eu la chance il y a quelques années de participer à l'ouverture et à la création de cette unité ambulatoire qui, vous allez voir, est un petit peu particulière sur son mode de fonctionnement. Elle a ouvert il y a 3 ans et prend en charge avec un docteur senior et 4 infirmières parfois par jour, 7800 patients année, 50 patients par jour, entre 7h du matin et 21h. Elle est fermée les jours fériés et les week-ends. On ne se substitue pas aux urgences. Au contraire, on travaille main dans la main avec eux. Il y a Pierre Osfater dans la salle. Donc, tous les jours, on collabore. Et quand on regarde le recrutement de cette unité, elle se veut mixte. C'est-à-dire qu'on a à la fois des patients qui viennent pour un geste interventionnel, parfois complexe, programmé. Vous allez venir pour une angioplastie de l'IVA, du tronc commun, pour une ablation d'arythmie, pour un choc électrique, pour une ETO sous-âgée, donc des gestes programmés. Et à côté de ces patients extrêmement fléchés, dont le parcours de soins est clair, vous avez des patients qui viennent pour une consultation non programmée pour un symptôme thoracique aigu, douleur, dyspnée, palpitation. Et le ratio initial à l'ouverture était 50% de programmés, 50% de non programmés. Aujourd'hui, on est plutôt à un quart de programmés et trois quarts de non programmés. Alors le but de cette unité, c'était d'aider nos collègues urgentistes pendant la journée, parce que vous l'avez compris, on est fermé la nuit, non pas en prenant en charge d'emblée forcément des patients qui viennent pour suspicion de syndrome coronaire aigu, mais éventuellement pour faire l'aval des urgences, pour les patients qui auraient une troponine négative, mais on veut quand même, les fameux patients à qui on dit qu'il faut aller voir un cardiologue dans la semaine ou aller voir un cardiologue dans le mois, bon courage pour avoir un rendez-vous dans ces délais-là. Donc ces patients-là, on peut les accueillir. Pour développer un réseau ville-hôpital, c'est-à-dire de dire à nos collègues cardiologues et à nos collègues médecins généralistes qui n'arrivent jamais à joindre la Pitié-Salpêtrière et jamais à joindre un cardiologue, de dire « c'est même plus la peine de nous appeler, vous l'envoyez là-bas, on va le recevoir, le patient ». Et puis d'éviter évidemment les hospitalisations inutiles en assurant une offre concurrentielle sur le secteur privé qui, en cardiologie, avait déjà mis en place de l'ambulatoire. Alors, la beauté de notre structure, c'est qu'elle s'appuie sur l'Institut de cardiologie de la Pitié-Salpêtrière, qui est probablement le plus gros centre de cardiologie publique en France, avec de la consultation hyper spécialisée, hyper programmée, que ce soit en structurel, en rythmologie et sur la maladie coronaire, et en s'appuyant sur un plateau technique non invasif, et notamment sur nos collègues radiologues, qui ont le coroscan extrêmement facile, et donc la possibilité d'allier à la stratification du risque clinique biologique également des examens dans la journée pour évaluer les artères coronaires. Le tout devant se faire dans un lieu qui, vous le voyez sur ces petits schémas, se veut plutôt sympathique, ne reprenant pas les codes de l'hôpital, avec une mise à disposition d'un accès rapide aux soins, et je suis très fier de dire que le délai moyen d'attente à LucasArts est de moins d'une heure, et que le délai moyen entre l'entrée et la sortie est de moins de 3 heures, avec généralement un diagnostic à la clé, puisque vous avez un cardiologue qui a une machine d'écho, qui a un coroscanner à disposition, éventuellement la coronarographie, un étage au-dessus. L'ouverture de cette unité, et on a eu des discussions avec Michel, elle était conditionnée par l'implantation d'un automate EBMD pour avoir un résultat immédiat. Et c'était pas nécessaire dans j'allais dire, pour l'amélioration de la qualité de soins du patient. Non, c'était pour améliorer l'organisation des soins. C'est-à-dire qu'on est dans un espace très contraint. Vous voyez que l'unité qui est en rouge fait 350 mètres carrés et en fait, les 50 patients passent sur 120 mètres carrés répartis en 5 box et 10 fauteuils. Donc, vous ne pouvez pas avoir un patient qui reste trop longtemps dans un box ou dans un fauteuil. Et on avait besoin de cette troponine sur place pour pouvoir libérer rapidement les patients. Alors, l'AQT 90 Flex a été implanté en janvier 2021 pour le dosage de la troponine T, du NT-proBNP et des D-dimères, ce qui permet de couvrir, j'allais dire, l'ensemble du spectre de la cardiologie. On est passé de la tropo-T à la tropo-I en avril 2023. On pourra en discuter dans les questions éventuellement, ça n'a rien changé pour nous. Et on a une gestion des consommables par le laboratoire et une équipe, on a la chance d'avoir une équipe fixe de 6 infirmières qui sont qui ont une grosse expérience en cardiologie, qui assurent à la fois le changement de réactif et le passage des contrôles 2 fois par jour. Et vous voyez à peu près en termes de nombre qu'on a une activité sur le GNLR de 15 troponines I, 10 NT-proBNP et 4 D-dimères. Ces troponines I, et on va en rediscuter ensuite, sont faites dans un contexte différent de celui des urgences, sont beaucoup faites en post-angioplastie, c'est-à-dire après avoir mis un stent dans les artères coronaires pour savoir si on peut libérer le patient. Et vous verrez qu'on n'a pas du tout le même algorithme ou le même besoin que nos collègues urgentistes d'avoir une troponine extrêmement sensible, extrêmement rapide. On a au contraire besoin d'avoir une troponine qui va détecter les grosses augmentations de troponine. Et puis on a le NT-proBNP qui nous sert essentiellement pour le suivi de nos insuffisants cardiaques qui sont connus, chroniques et qui viennent régulièrement dans cette unité. Je vais repasser la main à Michel.
Merci beaucoup Mathieu, mais ça va être très très rapide, je ne vais pas vous saouler avec des problèmes techniques. Vous aurez probablement accès à la présentation. C'est juste pour vous rappeler les caractéristiques des paramètres qui sont dosés à LucasArts sur l'AQT 90 Flex avec la troponine qui est une troponine I de non hypersensible, le NT-proBNP qui est un NT-proBNP classique et puis des D-dimères. J'insiste sur le fait que justement une des conditions préanalytiques que respecte le mieux finalement le personnel de LucasArts, parce qu'ils sont bien formés et parce qu'ils sont peu nombreux, bah c'est justement le fait d'utiliser le bon tube pour le bon dosage. Alors ça, c'est quelque chose sur lequel Mathieu va probablement revenir, et peut-être que vous aurez des questions, probablement que vous en aurez, sur le fait de l'hétérogénéité des troponines disponibles sur la pitié salpêtrière. Est-ce que ça a eu un impact sur la prise en charge des patients par LucasArts? Puisque comme on l'a vu, il y a eu passage de la troponine T à la troponine I. Apparemment, Mathieu le dit, il n'a pas eu de ça n'a pas fait d'impact sur sa pratique. Il semble quand même, peut-être que Pierre posera une question ou donnera des précisions aussi, que finalement le fait d'avoir une hétérogénéité des troponines sur le groupe hospitalier pitié salpêtrière, ça ne complexifie pas tant que ça la prise en charge des patients et que chacun a son petit algorithme et utilise son petit algorithme avec sa troponine et que les gens s'en sortent plutôt pas mal. Comme on vous l'a dit, ce sont le personnel de LucasArts qui passe les contrôles de qualité. On a rarement des problèmes là-dessus. Et ils savent très bien, ils ont cette affiche à côté de l'appareil, ils savent très bien quoi faire s'il y a des problèmes avec un ou plusieurs contrôles de qualité. Comme ils sont ouverts essentiellement le jour, s'il y a réellement un problème, on se déplace et on n'est pas très loin de LucasArts, le labo n'est pas très loin de LucasArts et on peut se déplacer pour aller les aider. Bon, pas à 21h puisqu'il n'y a plus personne, mais sinon on le fait dans la journée. Donc je redonne la parole à Mathieu pour une interprétation des résultats.
Voilà, alors c'est le point que je voulais discuter avec vous, parce que c'est une utilisation finalement peu connue des urgentistes, des biologistes des réanimateurs de la troponine en cardiologie, qui est finalement le dosage à 4 heures, à 12 heures, à 24 heures, ça, c'est une affaire d'école, de la troponine en post-angioplastie. Et vous imaginez bien que quand on a passé une demi-heure à mettre des guides, des ballons, des stents dans les artères coronaires, le fait que la troponine s'élève après ces procédures, eh ben c'est normal. La question, c'est de savoir à partir de combien de fois de la normale, c'est plus normal, ou en tout cas, ça nécessite une surveillance. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'infarctus périprocédural. Et alors, il y a plein de définitions et de batailles sur ce qui est finalement pathologique. Et ce qu'on peut retenir, c'est que quand on a une troponine à 5 fois la normale en post-angioplastie, vous avez un petit sur-risque de mortalité qui justifie d'une surveillance de 24 heures après le geste. Et donc, c'est le cut-off qu'on a pris pour l'unité, c'est-à-dire qu'on dose la troponine à H4 d'une angioplastie. Si elle est à 5 fois la normale, le patient reste. Si elle est à moins de 5 fois la normale, le patient sort. Vous voyez donc, démonstration par A plus B, qu'avoir une troponine ultra-sensible dans ce contexte-là est complètement inutile. Voilà. Enfin, et c'est probablement la beauté de cette unité, au début, quand on a commencé à faire de l'angioplastie complexe ou des procédures complexes en ambulatoire, on s'est mis plein de garde-fous en disant faut pas qu'on prenne des personnes âgées, faut pas qu'on prenne les insuffisants rénaux dialysés, faut pas qu'on prenne les patients qui ont fait un infarctus il y a quelques mois, faut pas qu'on prenne les procédures compliquées. Et donc on va faire en ambulatoire, on va faire sortir que les patients vraiment les plus simples, avec les procédures les plus simples. En fait, tous les ponts ont sauté très rapidement parce qu'on manque de lits. On a commencé à faire des procédures de plus en plus complexes sur des patients de plus en plus comorbides. Le seul vrai critère qui fait qu'on ne fait pas de l'ambulatoire, c'est justement la tropo à plus de 5 fois la normale après H4. Tout le reste ne détermine pas l'échec d'une stratégie ambulatoire. Alors, les aspects positifs pour le biologiste, je vais laisser à Michel.
Ça se recoupe,
alors je peux les dire. Donc, il y a d'une part une équipe utilisatrice. Alors, c'est Michel qui trouve que c'est un aspect positif. Moi, je trouve que c'est presque un aspect négatif ou stressant. C'est-à-dire qu'on a une équipe utilisatrice qui est restreinte, stable, motivée et réactive. Moi, en tant que responsable d'unité fonctionnelle, ça m'angoisse. C'est-à-dire que je dépends de ces 6 infirmières et en 2024. Garder une équipe toujours la même dans un service clinique, c'est un vrai challenge. Et donc, évidemment, qu'on dépend clairement de nos infirmières pour cette organisation. Et on est très dépendant, finalement, de ce mode d'organisation. La beauté, c'est qu'en effet, il y a une très grande autonomie des utilisateurs, changement des réactifs, passage des contrôles de qualité, avec une bonne connaissance des conditions pré-analytiques par l'équipe utilisatrice, et finalement, les infirmières qui se sentent très valorisé dans cette pratique. Et évidemment, vous le voyez, le dialogue entre biologistes et cliniciens qui est toujours appréciable. Alors, les aspects moins positifs, eh ben, c'est la nécessité pour Michel de jongler entre les seuils d'interprétation des différentes troponines, entre celui des urgences de la pitié, celui de la cardiologie, celui de je ne sais pas quel autre service qui en a. Et en effet, ce n'est pas simple. Pour nous, évidemment, les aspects positifs, c'est la rapidité, avec ses conséquences immédiates, qu'elles soient cliniques, économiques. Notre collègue urgentiste en a parlé juste avant. C'est finalement de pouvoir transformer l'organisation des soins, et ça nous a permis finalement de monter cette unité. Sans ça, ça n'aurait pas été possible. L'élargissement du champ des compétences pour l'infirmière, et je vous ai parlé évidemment de la dépendance à ce mode organisationnel, et du coup la nécessité de maintenir une équipe paramédicale stable. Merci beaucoup.
Excusez-moi. Je voulais quand même remercier plus particulièrement, bon, d'une part, l'équipe de Lucasar, avec qui on a vraiment de très bonnes relations, mais aussi les biologistes qui, avec moi, prennent en charge l'ensemble des EBMD sur le groupe Pitié-Salpêtrière, à savoir les docteurs Wedat, Sifi, Anachi et Jomou, et l'équipe de techniciens dévoués de biologie médicale, sans qui on ne pourrait pas assurer sur une telle surface la prise en charge d'autant de machines. Merci beaucoup.